Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce vendredi 1er février, 800 kilos de viande polonaise avariée retrouvée dans 9 entreprises françaises. 150 kilos ont déjà été récupérés. Ça pose une fois de plus la question de la traçabilité de la viande et de certaines pratiques on ne peut plus douteuses. Les gilets jaunes acte 12, les forces de l'ordre continueront d'utiliser les très contestés lanceurs de balles de défense. Le Conseil d'État vient tout juste de rendre son avis. Brigitte Macron aux obsèques de Michel Legrand. Elles viennent de s'achever à l'église orthodoxe de Paris avec ses proches. Dans RTL midi aussi, 4 millions de Français encore mal logés. Nous ferons le point avec la Fondation Abbé Pierre. Dans la famille Ntamack, je demande le fils. Il sera dans les rangs du 15 de France ce soir face au Pays de Galles, comme le fut son père il y a une vingtaine d'années. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Un bon petit cocktail de vigilance.
Oui, 7 départements du sud du pays sont en vigilance cet après-midi. Alors d'abord pour les avalanches, il s'agit de l'Isère et de la Savoie en descendant jusqu'aux Alpes-Maritimes. On a aussi des risques d'inondation en Corse du Sud et ce phénomène de vagues submersives attendu, prévu en tout cas dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse du Sud également. Vous l'aurez compris, le mauvais temps va s'acharner sur un gros quart sud-est cet après-midi. Ailleurs, on devrait assez bien s'en sortir. On pourrait même avoir quelques éclaircies de temps à autre, sachant que les plus belles seront vers les Landes et vers le midi toulousain. On a aussi quelques averses qui circulent et ce sera le cas une grande partie de l'après-midi, notamment sur la moitié nord ensuite. Les températures, elles remontent, mine de rien. 6 degrés attendus à Cherbourg, 7 à Reims et Nancy, 8 à Paris et Lyon, 11 à Bordeaux, 12 à Perpignan.
La question du jour sur RTL.fr à propos de la viande avariée. Faites-vous confiance au contrôle sanitaire? La réponse est non à 73%, 22% de oui. On attend vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Proulx.
Bonjour Christelle, on en parlera évidemment de cette viande avariée. C'est trois vaches, hein,
à peu près,
à 795 kilos, il faut le dire. Le Conseil d'État refuse de suspendre l'usage du LBD, vous allez en parler, et les auditeurs pourront réagir. L'écart d'âge dans un couple, vous y faites attention ou pas? C'est un critère important. Des sujets plus légers également avec Claude François qui aurait fêté aujourd'hui ses 80 ans. Quel souvenir gardez-vous de lui? À tout à l'heure.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer, cette histoire de fugue amoureuse inquiétante. Une adolescente de 14 ans qui habite à Marseille avait disparu depuis le 7 janvier. Elle a été retrouvée 1000 kilomètres plus loin, à Eck, dans le Nord, chez un homme d'une trentaine d'années. La jeune fille s'était laissée séduire par cet adulte sur les réseaux sociaux, Franck Hanson.
Oui, Cali a été repérée via Internet par ce nordiste de 29 ans qui n'en était pas à son coup d'essai. Sur ce forum de discussion, ils ont d'abord parlé jeux vidéo avant que la liaison ne devienne plus sérieuse. Jonathan, marginal sans emploi, est ensuite descendu à Marseille pour rencontrer l'adolescente en décembre dernier. Il loue un studio où ils ont leur premier rapport sexuel. En conflit avec sa mère, Cali décide de partir avec son amant dans le Nord en début d'année. Il s'installe dans cette maison des Flandres où les gendarmes vont la retrouver cachée au grenier. La jeune fille, déjà fragile, déclare qu'elle se sentait perdue et qu'elle a trouvé un réconfort dans les bras de cet homme. Elle n'aurait pas subi de violence, mais Jonathan l'a clairement harponnée via les réseaux sociaux, selon les mots du procureur de Dunkerque. Il devrait être poursuivi pour soustraction et atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Il avait déjà été arrêté pour une affaire similaire avec une adolescente du Loir-et-Cher.
Et depuis, l'adolescente est rentrée chez ses parents à Marseille. À la veille de l'acte 12 des Gilets jaunes, le Conseil d'État ne suspend pas l'utilisation des lanceurs de balles de défense, qu'on appelait avant les flashballs, et qui ont grièvement blessé plusieurs manifestants. Quels sont les arguments du Conseil d'État, Olivier Bois?
Alors, le Conseil d'État reconnaît que les tirs de LBD ont effectivement causé des blessures parfois très graves, et qu'à ce jour, comme les enquêtes sont en cours, on ne peut pas exclure effectivement qu'il y ait eu des manquements individuels de la part de certains policiers. Mais au-delà de ces éventuels dérapages qui restent encore à prouver, le Conseil d'État affirme par cette décision que ces armes intermédiaires, les LBD, sont aujourd'hui, je cite les mots du communiqué, particulièrement appropriées pour faire face à la violence de certains manifestants. Le Conseil d'État écrit par ailleurs que les conditions d'utilisation ont été rappelées, que désormais, quand ils le peuvent, les policiers et les gendarmes doivent filmer les tirs. Et puis le Conseil d'État souligne enfin que depuis deux mois, la plupart du temps, les manifestations ne sont pas déclarées, qu'il y a eu des débordements violents quasiment systématiquement, qu'il est impossible d'exclure que demain ou les week-ends qui suivront, eh bien, il n'y ait pas à nouveau des affrontements. Mmh. Et que donc, pour toutes ces raisons, eh bien, les LBD doivent rester dans l'arsenal disponible des forces de l'ordre.
Jérôme Rodriguez, un gilet jaune, avait été gravement blessé à l'œil samedi dernier à Paris. Écoutez sa toute première réaction.
Certaines personnes sont irresponsables quant à leurs décisions. Je suis quand même le 20e œil qui tombe aujourd'hui. Et en plus, quand j'ai la sensation d'avoir été délibérément visé, ça me fait d'autant plus mal, quoi. Et c'est regrettable que les gens n'aiment pas cette présence d'esprit humaine de se dire qu'on utilise des armes de guerre aujourd'hui contre un peuple qui ne fait que revendiquer un morceau de pain et qu'on les reçoit à coups de flashball. De la colère, parce que ça fait mal au peuple. On est des gueules cassées aujourd'hui, on va être invalides. En Italie, en Allemagne, en Angleterre, on disperse les gens avec un canon à eau et nous, on disperse à coups de flingue. C'est hyper dangereux.
Jérôme Rodriguez avec Alice Moreno. Les blessés ont été nombreux depuis le 17 novembre. Selon nos informations RTL, on compte 20 blessures à l'œil, dont 10 irréversibles. Et 116 procédures ont été ouvertes par la police des polices pour des violences policières. Quant à l'acte 12 des Gilets jaunes, demain, jusqu'à 10 000 personnes sont attendues à Valence, dans la Drôme. La manifestation est présentée comme une marche régionale. Le centre-ville sera bouclé et il y aura des contrôles d'identité sur les points d'accès. De la viande avariée polonaise retrouvée en France, il y a de quoi nous couper l'appétit. Près de 800 kilos ont été importés par 9 entreprises du secteur agroalimentaire. C'est le ministre de l'Agriculture lui-même, Didier Guillaume, qui l'a annoncé ce matin. Alors on n'est pas face à un scandale sanitaire majeur, puisque c'est l'équivalent à peu près du poids de 3 vaches, mais c'est tout de même inquiétant. Anne Lehenaf, c'est une chaîne de télé polonaise qui a révélé le scandale.
Oui, un journaliste s'est fait embaucher en novembre dans cet abattoir au nord de Varsovie et il a filmé très discrètement. Le reportage a été diffusé samedi dernier, on a pu voir des images limite soutenables de vaches malades, incapables de marcher, tirées au sol par des cordes. Des images aussi de carcasses de viande avariées. On voit des salariés de l'abattoir enlever des parties qui ont l'air plus que douteuses. La Pologne ouvre une enquête avant-hier et hier, on apprend que 2,7 tonnes ont été exportées dans 10 pays européens.
Et les 800 kilos arrivés en France, où sont-ils ?
Alors, ils sont en cours de récupération depuis mercredi soir. 513 kilos ont déjà été retrouvés à la mi-journée et retirés du circuit, vient de nous dire le ministère de l'Agriculture, qui ne veut pas donner pour l'instant le nom des 9 sociétés concernées. La traçabilité marche bien, s'est félicité ce matin le ministre Didier Guillaume.
Est-ce qu'il y a un risque sanitaire ?
Alors les Polonais assurent que non, pas de menace pour la santé, pas de risque biologique, a dit un inspecteur sanitaire polonais. Mais l'enquête ne fait que démarrer en Pologne, dans l'abattoir qui est désormais fermé. L'Europe envoie ses inspecteurs lundi, car ce qu'on ne sait pas non plus, c'est depuis combien de temps ce scandale durait.
Merci Anne. Pour aller plus loin, nous sommes avec Bruno Defayet, président de la Fédération Nationale Bovine. Bonjour.
Bonjour.
800 kilos de viande avariée retrouvée par les services sanitaires, ça vous inquiète ?
C'est pas que ça m'inquiète, mais c'est énervant. On est encore une fois de plus sur une fraude. Et ça devient insupportable quand on est producteur français de voir que, en plus, on est sujet justement à retrouver ces viandes sur notre pays.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de traçabilité ou pas par rapport à toutes ces viandes qu'on importe ?
Alors, pour le coup, par contre, moi, en tant qu'éleveur, ce que je trouve plutôt positif, c'est qu'on a un service français de contrôle qui est efficace. Vous venez de dire que 500 et quelques kilos des 800 avaient déjà été saisis. Ça montre justement toute la qualité de nos services de contrôle en France. Et ça, pour le coup, c'est peut-être aussi ce qui nous a permis d'être justement reconnus comme étant le pays le plus sûr en termes de qualité et en termes de suivi sanitaire. Donc ça, c'est quelque chose qui nous rassure.
D'accord, mais par exemple, d'autres viandes avariées provenant du même abattoir n'ont peut-être pas été détectées il y a quelques semaines ou quelques mois.
Alors ça, c'est justement l'enquête qui va le dire. Et moi, par contre, ce que j'ai envie de dire en tant qu'éleveur français, c'est par contre, j'ai envie de me retourner vers nos citoyens français, vers nos consommateurs, en leur disant, on peut aller plus vite que la justice. On peut aller même plus vite que les contrôles. Quand on est consommateur, c'est qu'on s'oriente sur une viande française, qu'on regarde ce qu'on achète, qu'on regarde l'origine de nos produits, et qu'on vienne acheter cette viande française qui est justement bien tracée, sécurisée et de qualité. Ça, c'est la première action que j'ai envie de demander aux consommateurs français. Et la deuxième aussi, un rôle qu'on a nous en tant qu'éleveurs et qu'on a aussi en tant que consommateurs, c'est aussi de mettre la pression sur tous nos distributeurs, justement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal, quand on est dans un pays comme la France, où on a une production de qualité, que certains aillent encore chercher ces viandes, juste à des fins de bénéfices personnels, et sans se soucier justement de la qualité du produit qu'on met aux consommateurs. Donc, on a la possibilité, nous, en tant que citoyens, justement, de s'emparer du sujet, d'aller encore plus vite que toutes les mesures sanitaires, que toute la justice, en ayant un vrai rôle d'orientation du produit qu'on veut retrouver dans notre
assiette. Oui, vous nous dites acheter français, j'entends bien Bruno Dufayet, mais quand même, est-ce qu'on peut être sûr qu'en France, ce type de choses ne peut pas se produire ? Vous vous souvenez de l'histoire des caméras dans les abattoirs ? Ça faisait partie au départ du projet de loi alimentation, puis ça a été retiré.
Alors, les caméras dans les abattoirs, c'était sur des conditions de bien-être animal. On n'était pas du tout sur une fraude autour de viande avariée, sur de l'abattage d'animaux malades. Ça avait strictement rien à voir.
On est d'accord, mais ça peut détecter aussi ce genre de choses.
Ah non. Aujourd'hui, en France, on est certain de ne pas retrouver sur la chaîne alimentaire, justement, des animaux malades. Parce qu'on a la présence des services vétérinaires dans chaque abattoir qui sont là, justement, pour contrôler si oui ou non la viande qui va pouvoir passer sur la chaîne alimentaire répond, justement, aux règles et aux règles d'hygiène, aux règles sanitaires imposées par notre pays.
Voilà, donc vous êtes rassurant, Bruno Dufayet, ça ne peut pas arriver en France avec de la viande française et acheter français. Merci beaucoup, à très
Merci
bientôt.
À
Merci, bonne journée. Dans un instant, ultime hommage à Michel Legrand.
RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Les deux policiers du 36 quai des Orfèvres font appel. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison pour viol hier. Leurs avocats cherchent maintenant à obtenir leur remise en liberté. C'est une information RTL d'Alice Moreno. Il aura fait tourner les moulins de notre cœur. C'est l'heure des adieux à Michel Legrand. Les obsèques du compositeur viennent de s'achever à l'église orthodoxe de la rue Daru à Paris. Brigitte Macron a tenu à s'y rendre, ainsi que le ministre de la Culture. Une cérémonie plutôt intime, Nicolas Burnand.
Oui, durant près d'une heure, la famille et les proches du compositeur se sont réunis autour de sa dépouille dans cette cathédrale orthodoxe du 8e arrondissement. C'est dans cette église que Michel Legrand et sa femme, la comédienne Macha Merrill, se sont unis en 2014. Une courte cérémonie religieuse, sobre, en présence de nombreuses personnalités. Brigitte Macron, vous l'avez dit, mais aussi le réalisateur Claude Lelouch, l'écrivain Frédéric Becbédé ou encore l'autre grand créateur de musique de film, Vladimir Kosma, très ému par la perte de son ami.
C'est un peu le début de ma carrière et c'est une collaboration qui m'a donné l'occasion de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et c'est une perte pour nous et je me sens mal.
Autour de l'église, une trentaine de badauds, d'anonymes, écoutent l'office religieux dans le froid depuis des haut-parleurs. La vie de François était bercée par les musiques du compositeur.
J'ai 69 ans et lorsque j'ai découvert les parapluies de Cherbourg, ça m'a marqué énormément. C'était surtout cette façon de parler en chantant. Physiquement, elle m'émeut et puis elle me fait vibrer. Je suis ailleurs, quoi. Et je me devais être là pour lui dire un dernier au revoir.
À la fin de la cérémonie, la famille de Michel Legrand, lassée, descend les marches de l'église devant le cercueil noir porté par 6 hommes. La femme du compositeur, Macha Merrill, accompagne son mari jusque dans la rue pour attendre le départ du cortège funéraire.
Nicolas Burnand, à l'église orthodoxe à Paris, sachez qu'à Rochefort, les drapeaux sont en berne et les demoiselles sont tristes. Édouard Philippe retrouve en ce moment son mentor Alain Juppé à Bordeaux. Les deux hommes doivent déjeuner ensemble avant une rencontre avec des commerçants très pénalisés par la mobilisation des Gilets jaunes. Quant à Emmanuel Macron, l'homme qui se dit scarifié, autrement dit marqué dans sa chair par ses 20 mois passés à l'Élysée, il poursuit le grand débat aujourd'hui au palais de l'Élysée en rencontrant une soixantaine de maires venus d'outre-mer. Et lundi, il se rendra à Courcouronnes dans l'Essonne pour poursuivre ce grand débat. Information RTL. Jean-Luc Mélenchon met le cap à son tour sur les élections européennes. Dans un sondage Opinionway Tilder, le Rassemblement national arriverait en tête avec 22%, suivi de La République En Marche 20%. Les Républicains sont à 12% et La France Insoumise à 8% seulement. Alors pour retrouver l'enthousiasme et la mobilisation de la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon va se démultiplier une fois de plus en hologramme, Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour, mon hologramme est heureux de vous retrouver. Dans quelques mois, vous allez avoir des élections européennes.
La France Insoumise refait le coup des hologrammes avec 4 camions rebaptisés les Holovanes qui vont sillonner la France. Réponse du mouvement de Jean-Luc Mélenchon au grand débat. Manon Aubry, tête de liste.
Au moment où Emmanuel Macron fait son débat auprès des maires et des élus locaux, il n'affronte plus aujourd'hui ce que pensent les gens, ce qu'attendent les citoyens français et ce qu'attend le peuple. Et nous, nous allons au contact du peuple parce que nous n'avons pas peur d'aller au contact du peuple.
L'idée crée l'événement. Avec les hologrammes des candidats, les militants en chair et en os déclineront alors le programme. La cible, les petites villes jusqu'à 25 000 habitants. Un appel du pied assumé aux Gilets jaunes. Manuel Bompard, numéro 2 sur la liste.
On voulait aussi un dispositif qui est plutôt un dispositif qui va à destination de la France des oubliés, des méprisés, celles et ceux qu'on voit sur les ronds-points aujourd'hui.
Départ des Holovanes le 6 février pour 471 étapes jusqu'au européennes.
Marie-Bénédicte Allaire, l'apprentissage, une filière d'avenir. 70% des apprentis trouvent du travail dans les 7 mois qui suivent la fin de leur formation. Notre journée de l'emploi sur RTL leur est consacrée et il faut savoir que l'apprentissage permet aussi d'insérer les jeunes handicapés dans la vie professionnelle. Anaïs Bouissou, vous vous êtes rendue à l'Institut des métiers et de l'artisanat de Meaux, en Seine-et-Marne. 1 millier d'apprentis, dont 70 souffrent d'un handicap.
Dans les cuisines du centre de formation, Caïs, 17 ans, rouleau à pâtisserie dans la main, travaille comme les autres apprentis.
Là, je suis en train d'étaler la pâte pour qu'elle soit bien ronde.
Pourtant, il a un statut d'apprenti en situation de handicap.
Moi, je suis hyperactif. En fait, je vais bouger tout le temps.
Un handicap qui a valu à Caïs plusieurs refus d'employeurs.
Les employeurs, quand ils voient mon CV, ils voient que je suis TDAH, c'est l'hyperactivité. Ça leur fait un peu peur et ils ne savent pas vraiment ce que c'est.
Pourtant, être hyperactif permet au jeune homme d'être encore plus efficace.
Vu que je bouge plus, je vais plus vite. Les employés, ils aiment ça.
Pour aider Caïs au centre de formation, la référente handicap Bérangère n'est jamais très loin.
C'est de la reformulation, c'est mettre l'apprenti devant, moins de copies, donc fournir aux jeunes plus de polycopier, donc voilà, le comprendre et lui redonner confiance.
Et contrairement aux autres apprentis, une personne en situation de handicap peut signer un contrat d'apprentissage, même après 30 ans, tout au long de sa vie.
Et 237 offres d'apprentissage, 58 000 offres d'emploi sont à retrouver sur RTL.fr à la rubrique « Les PME recrutent ». 4 millions de Français encore mal logés, on en parle dans un instant.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Le mal logement, le drame de l'effondrement des immeubles vétustes à Marseille a rappelé il y a quelques semaines que 4 millions de personnes sont mal logées et que 12 millions en tout sont en situation de fragilité. C'est aussi pour cela que le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre nous intéresse particulièrement cette année. Bonjour Manuel Domergue.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints en studio. Vous êtes le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Chaque année, c'est le même constat, une situation alarmante. Beaucoup de pessimisme. Pourquoi n'arrive-t-on pas à progresser ?
On n'arrive pas à progresser parce qu'on ne met pas assez de moyens sur cette question qui est pourtant fondamentale pour le pouvoir d'achat, pour la vie familiale, pour la santé des Français. On a l'impression que pour le gouvernement, c'est simplement une variable d'ajustement budgétaire. Mmh. Effectivement, on met 40 milliards d'euros sur la table chaque année de la part de l'État, donc il ne se passe pas rien. Mmh. Mais ces 40 milliards d'euros, ils sont utiles, ils sont indispensables pour produire des logements sociaux, pour aider les personnes à payer leur loyer. Sans ça, la France n'aurait pas 4 millions de mal logés, mais sans doute 10 ou 15. Donc oui, on a besoin de plus d'argent sur le logement et puis d'une action volontariste, par exemple, pour encadrer les loyers. Ça coûte rien, par contre. Mmh. Mais là, il n'y a rien qui est fait non plus. Mmh. Donc on a l'impression que ce n'est pas du tout une priorité pour ce gouvernement.
Oui, et le nombre de logements sociaux financés a même baissé l'an dernier. Hein.
Alors ça, on a averti le gouvernement depuis 2 ans. Si vous continuez à couper comme jamais on a coupé les moyens pour les bailleurs sociaux en France, vous aurez une baisse de la production. Elle est là, elle était là l'an dernier, elle s'accroît cette année. D'après la Caisse des dépôts, c'est l'État, on pourrait aller jusqu'à une division par deux de la production annuelle de logements sociaux dans 15 ans. Mmh. C'est gravissime. On a besoin aujourd'hui de logements sociaux. Il y a 2 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. Et qu'est-ce que le gouvernement trouve à faire ? Leur ponctionner 1,5 milliard par an, c'est-à-dire les 2/3 de leur capacité d'autofinancement pour investir, pour rénover, pour faire la rénovation urbaine, pour faire un entretien des immeubles. Comment ils vont faire s'ils n'ont pas cet argent ? Les bailleurs sociaux, ils ne versent pas de dividendes, ils n'ont pas d'actionnaires. Les bailleurs sociaux, ce n'est pas des acteurs à but lucratif. Il n'y a pas de stock option. Donc, c'est vraiment prendre l'argent à cet endroit-là, et on pourrait parler de la même manière pour les APL, c'est vraiment complètement contre-productif.
Donc, plus de moyens de la part de l'État, d'accord. Mais il y a une réalité, c'est que la part des dépenses consacrées au logement augmente sans cesse. On est passé de 9% dans les années 60 à presque 23% en moyenne de notre budget. Ça, c'est le fond du problème. Comment on peut s'attaquer à ça aujourd'hui ?
Oui,
en essayant de faire baisser les loyers ?
Alors, on peut faire baisser les loyers parce que les grands perdants de la bulle immobilière, ce sont les locataires du parc privé. Parce que vraiment, dans les grandes agglomérations, c'est le plus dur pour eux. Donc là, la seule solution pour aller vite, et ça coûte rien, c'est l'encadrement des loyers. Après, il faut aussi utiliser l'outil des logements sociaux, qui est un outil qui a fait ses preuves depuis 100 ans en France. C'est pas très original, mais ça marche. Les pauvres peuvent aller dans des vrais logements, des bons logements, grâce au HLM. Si on n'avait pas ça en France, ce serait la catastrophe. Mmh. Donc il y a la question de l'encadrement du foncier. Comment est-ce que les collectivités avec l'État peuvent mobiliser du foncier pour contenir l'évolution des prix ? Donc c'est un travail à la fois sur la fiscalité, sur l'investissement, sur la préemption foncière. C'est compliqué, mais il faut que ce soit une priorité des collectivités et de l'État. Mais faire des économies sur le logement, ça ne marche pas.
Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui ? outre le fait de mettre plus de moyens sur le logement, placer le sujet du logement au cœur du grand débat ? Parce qu'on n'en parle pas du tout pour l'instant.
C'est complètement oublié dans ce débat. Alors les Gilets jaunes ne l'ont pas beaucoup mis en avant non plus. Pour un mouvement qui est plutôt de la France éloignée des centres-villes, c'est assez logique parce que le prix du logement est moins cher aussi. Mais il n'empêche que ça les touche également. Mais le gouvernement, pourquoi il ne veut pas mettre cette question du logement au cœur du débat ? Parce qu'il n'a pas envie de revenir en arrière sur ses choix. On en a parlé au ministre du Logement. Mettez en débat les APL, les HLM, l'encadrement des loyers. C'est un sujet qui intéresse les gens. La coupe de 5 euros sur les APL, ce n'est pas une mesure technique. Les gens ont bien compris de quoi il s'agissait. Il a dit non. Parce que pour nous, c'est quelque chose qui est acté. On n'a pas envie de revenir en arrière.
Merci Manuel Domergue. Je rappelle que vous êtes le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Retour à la normale, enfin, à la gare Montparnasse ce matin après une journée de perturbation. Mais d'autres voyageurs ont vécu une bonne galère. Un TGV parti hier soir de Paris vers Lille pour une heure de trajet n'est arrivé qu'au petit matin avec 5 heures de retard. Une panne a même conduit le mécanicien de bord à transférer les passagers vers une autre rame en pleine nuit. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 3210 dans quelques minutes. Pascal.
J'imagine qu'on va parler de la décision du Conseil d'État qui n'a pas suspendu le LBD. J'ai entendu Jérôme Rodriguez qui parle d'une décision irresponsable. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas qu'une décision juridique. Forcément, il y a un poids politique dans cette décision et que les auditeurs pourront, sur ce sujet, intervenir entre 13h et 14h. Vous pourrez parler également de la viande avariée. Faites-vous confiance au contrôle sanitaire, du mal logement, on vient de l'entendre à l'instant. Et puis, de sujets peut-être plus légers, l'écart d'âge dans un couple. Est-ce que vous y faites attention ? Est-ce que c'est un critère important ? Voilà un sujet qui peut faire parler, comme les 80 ans de Claude François. Vous étiez fan de Claude François ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais oui, vous voyez, ça existe.
Et vous l'êtes devenu ?
Non, pas du tout.
Non plus. Bon, bah, écoutez, j'ai pas de chance alors.
Hein ? Mais vous l'êtes, ça, c'est sûr.
Bah, le téléphone pleure entre 13h et 14h avec les auditeurs.
Il y aura des Magnolia
pourquoi
forever,
pas ?
Oui,
pourquoi pas ? Et puis, alors, j'avais un autre sujet aussi. Qui verriez-vous à l'Académie française ? Aujourd'hui, il y a eu 4 tentatives, 4 qui sont avortées, notamment Luc Ferry qui a été recalé. Alors, moi, j'ai une idée pour l'Académie française. Oui. Je milite pour Fabrice Lucchini.
Ah, bonne
idée. Ça serait pas mal. Fabrice Lucchini à l'Académie française. Donc, qu'en pensez-vous ?
Allez, à tout à l'heure. La météo, Valérie Quintin, il pleut des cordes dans le sud-est.
Oui, c'est vrai que le gros du mauvais temps va se concentrer sur le sud-est cet après-midi avec beaucoup de pluie, donc près du littoral. Plus on va gagner la montagne et plus on aura de la neige qui va intervenir. On a d'ailleurs un fort risque d'avalanche en Isère, en Savoie, dans les Alpes du Sud. Un risque, une vigilance aussi de vagues submersion pour la Corse du Sud, les Alpes-Maritimes et le Var, et un risque d'inondation en Corse du Sud. Bref, ça va durer une grande partie de l'après-midi, donc il faut quand même rester vigilant dans toutes ces régions du sud-est, pas qu'à Corse, donc partout ailleurs beaucoup de nuages, quelques petites éclaircies ici ou là, pas fameuses malgré tout. À la limite, les plus belles éclaircies iront vers les Landes et vers le midi toulousain. C'est vraiment histoire de chipoter pour les autres. Les températures, elles remontent légèrement, 5 degrés attendus à Lille, 6 à Strasbourg, 8 à Caen, à Paris, à Grenoble, 12 à Agen, 13 à Montpellier et 15 à Ajaccio.
Et pour ce week-end, il vaut mieux miser sur dimanche.
Alors, demain, il fera beau en Bretagne. Et c'est tout, et ce sera seulement l'après-midi, pas le matin. Partout ailleurs, on va avoir un ciel très chargé, des pluies, de la neige à 1000 mètres en montagne, surtout dans les Alpes et dans les Pyrénées. Le risque d'avalanche restera très sensible demain dans les Alpes du Sud. Les températures au réveil iront de moins 1 à 8 degrés entre Annecy et Ajaccio, 3 à 14 en journée. Et puis dimanche, peu à peu, le soleil va grignoter. On va en trouver de belles éclaircies, très belles éclaircies sur toute la façade ouest. Un petit peu de soleil aussi entre le nord, l'Île-de-France, le centre, les Pyrénées et en PACA, où ça va un petit peu se calmer. Et puis dans l'Est, ça restera très nuageux avec une limite plus neige qui va s'abaisser à 300 mètres parce que les températures baisseront un petit peu aussi pour la journée de dimanche. Notez qu'il y aura par ailleurs beaucoup de vent, de très fortes rafales de vent dimanche après-midi entre les Pyrénées et la Provence.
C'est bien perturbé tout ça. Merci Valérie.
Oui.
Dans un instant, le rappel des titres avec Alexandre de Saint-Aignan.
RTL, il est 13h.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. On n'a pas fini de voir des LBD pendant les manifestations de Gilets jaunes. Le Conseil d'État a refusé tout à l'heure de suspendre les lanceurs de balles de défense, successeurs du flashball, responsables de blessures, au cœur d'une polémique. Selon les sages, il n'y a pas d'intention de ne pas respecter les conditions d'usage strictes mises à l'utilisation de ces armes. Décision saluée par Frédéric Lagage du syndicat Alliance Police.
C'est une sage décision par rapport à la situation parce que mes collègues n'avaient pas le choix sur le terrain que d'utiliser ce genre d'armes pour préserver bien évidemment leur intégrité physique, comme celle des citoyens qui manifestent tranquillement dans ce genre de manifestation, pour repousser au mieux ces individus qu'on appelle des individus casseurs, quoi. Là, on est sur une doctrine, on va dire, intermédiaire entre ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire du maintien de l'ordre à distance, et une doctrine de maintien de l'ordre style européen, allemand, directement au contact.
Frédéric Lagache du syndicat Alliance Police avec Guillaume Chiez. Sur RTL, tout à l'heure, première réaction du gilet jaune, blessé à l'œil par un projectile de la police. Jérôme Rodriguez, il dénonce une décision irresponsable du Conseil d'État. À la veille de l'acte 12 des gilets jaunes, le secrétaire d'État à l'intérieur a affirmé ce matin sur RTL que les lanceurs de balles de défense seront à nouveau utilisés demain par les forces de l'ordre. Et en parallèle, le grand débat national continue pour tenter de répondre à la colère des manifestants. Après les apparitions surprises au dernier moment, changement de stratégie. L'Élysée annonce qu'Emmanuel Macron se rendra lundi à Courcouronne en Essonne. Le ministre de la Transition écologique, lui, est à Fessenheim. François de Rugy confirme la fermeture de la centrale pour 2020 en mars et en août pour les deux réacteurs. Au lendemain du verdict dans l'affaire du viol au 36 quai des Orfèvres, les avocats des deux anciens policiers de la BRI ont fait appel. Ce matin, leurs clients ont été incarcérés hier soir à la prison de la Santé, condamnés à 7 ans de prison ferme pour le viol d'une touriste canadienne en 2014. Les obsèques de Michel Legrand à Paris, cérémonie religieuse dans un premier temps à la cathédrale orthodoxe de Paris ce matin, réservée à la famille et aux proches. Le réalisateur Claude Lelouch était présent.
Écoutez, il n'y a rien à dire, on va écouter sa musique maintenant. Hein, on va écouter sa musique en boucle. Voilà, comme ça, avec ça, il est là pour toujours.
Claude Lelouch avec Laurent Marsic pour RTL. Le corps de Michel Legrand sera inhumé cet après-midi au cimetière du Père Lachaise après un hommage public au théâtre Marigny qui joue actuellement la comédie musicale Podane. Notez également une rétrospective de la carrière de Michel Legrand diffusée sur écran géant cet après-midi devant la mairie de Paris. Le 15 de France de père en fils sur la pelouse du Stade de France ce soir en ouverture du tournoi des Six Nations pour la rencontre des Bleus face au Pays de Galles. Il y aura un champion du monde de moins de 20 ans, Romain Ntamack. Son nom vous dit peut-être quelque chose. C'est son père, Émile, qui était une figure de l'équipe de France de rugby dans les années 90. Une véritable saga familiale, Jean-Michel Rascol.
Une histoire de famille, une histoire de ballon ovale forcément. Émile, 46 sélections, athlétique attaquant des belles années bleues, auteur d'une interception de légende à la barbe des All Blacks pour une victoire majuscule à Auckland en 1994, n'aura pas seulement le regard de l'entraîneur ce soir, mais bien celui d'un père.
Sentiment de fierté, de plaisir, de joie, d'anxiété aussi, bien sûr. Mais ça, je dirais, à chaque fois qu'il joue un match, on est aussi papa ou maman. Et forcément, il y a toujours un petit peu d'inquiétude. Et je pense qu'il me ressemble sur l'état d'esprit. Mais il a aussi un bagage bien supérieur au mien au niveau technique. On ne demande pas de faire des miracles. On lui demande simplement d'être sur la droite ligne de ce qu'il a montré depuis le début. Et puis les choses viendront naturellement.
L'ADN a bien fonctionné au point que Romain apparaît comme le meilleur technicien balle en main de la famille. Pas encore 20 ans, mais pour ses débuts à Marcoussis, toujours à l'écoute de papa.
Ouais, il m'a dit qu'il fallait bien que je me couvre parce qu'à Marcoussis, à cette période de l'année, il fait quand même froid, il a même neigé, donc il m'a prévenu sur ça. Après, non, il m'a dit de me régaler, de prendre ce que j'ai à prendre, de pas me stresser et de faire ce que je savais faire. Je suis plutôt fier d'essayer de suivre les traces de mon père.
Le jeune champion du monde des moins de 20 ans est en plus, selon ses coéquipiers, imperméable à la pression. Un premier bon point avant de se frotter au Diable Rouge.
Jean-Michel Rascol avec Patrick Hisson à Toulouse. France, Pays de Galles, une rencontre à vivre ce soir sur RTL à partir de 20h, en même temps que le premier match de la 23e journée de Ligue 1. Lille-Nice, la Bourse de Paris sur RTL en partenariat avec Investir les Échos. Bonjour Sylvie Aubert.
Bonjour Alexandre.
Le CAC flirte avec les 5000 points.
Oui, quelques points en plus ou en moins, on oscille autour de ce seuil. Mm-hmm. Pas sûr que ça dure jusqu'à ce soir, mais enfin, pour l'instant, l'ambiance est plutôt bonne à la Bourse de Paris. Les négociations commerciales sino-américaines semblent se dérouler sereinement. La Chine a tout intérêt à éviter une nouvelle hausse des droits de douane, car son économie ralentit nettement. Selon les toutes dernières statistiques, l'activité industrielle a connu en janvier sa plus forte contraction depuis près de 3 ans. Alors, dans ce contexte de ralentissement économique mondial, les investisseurs vont être attentifs aux données sur l'emploi américain. Elles seront annoncées en début d'après-midi. Le shutdown devrait avoir eu pour effet de ralentir les embauches. À Paris, la bourse applaudit les comptes de JC Deco. L'action gagne 9%. À l'inverse, la dette de Vallourec inquiète toujours. Le titre, qui a perdu 8% hier, cède encore 6% aujourd'hui.
Merci Sylvie Aubert. Dans un instant, prenez la parole. Pascal Praud attend vos appels au 3210.
Vous écoutez RTL.